Benjamin Netanyahou était en Hongrie, vous le savez, et on se pose la question de savoir quelles conséquences pour la perception de la CPI. Viktor Orban, le premier ministre hongrois, a reçu ces derniers jours Benjamin Netanyahou. Il a refusé de l'arrêter, bien que la Hongrie fasse partie des pays membres de la CPI. Jusqu'alors, puisque vous le savez, depuis, elle s'est retirée. Interrogé sur ce refus, le premier ministre belge, Bart De Wever, a dit comprendre cette décision. Analyse avec Tanguy De Wilde. Il est professeur de relations internationales à l'UC Louvain. Il est au micro de Lucie Gilson.
Bonjour Tanguy De Wilde.
Bonjour madame.
Vous êtes professeur de relations internationales à l'UC Louvain. Alors, Benjamin Netanyahou a effectué une visite en Hongrie, un pays européen qui fait partie de la Cour pénale internationale. Et ce, alors même qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par cette Cour. La Hongrie, en tant que signataire du traité de Rome, était tenue d'exécuter ce mandat d'arrêt. Mais Viktor Orban a expliqué qu'il souhaitait sortir de la Cour pénale internationale. Est-ce que cela pose un précédent ? Est-ce que ça veut dire que les traités internationaux n'ont que peu d'effet aujourd'hui et qu'on peut en sortir ?
Mais tout traité international possède en son sein une clause qui dit comment on peut en sortir. Alors, il faut respecter les formes et les délais. Mmh. C'est la seule chose que je peux vous dire. Mais c'est vrai de tous les traités, que ce soit un traité global, comme les traités relatifs au climat, on l'a vu que Trump était sorti de là, ou un traité tout à fait singulier comme la question du nucléaire iranien, donc le JCPOA, le plan d'action global pour l'Iran, on peut aussi s'en retirer, moyennant le respect des formes et des délais. Donc ça, c'est vrai, je dirais, pour tout traité. Donc la question est technique. Il n'y a pas de traité qui ne prévoit pas qu'on ne puisse pas en sortir. C'était peut-être le cas des traités de Rome jusqu'au traité de Lisbonne, où on a vu que le Brexit a permis à un État de sortir d'un traité.
Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, en fait, l'aspect le plus inquiétant dans cette décision-là, c'est que finalement, on peut imaginer que c'est une question de temps avant que les États membres prennent des libertés avec d'autres traités internationaux, comme celui fondateur de l'Union européenne, par exemple.
Oui, là où vous avez raison, c'est qu'il y a depuis quelques années un délitement du multilatéralisme et du respect des traités noués, et donc effectivement, et parfois un délitement aussi du droit international, même si ici, je vous dis, c'est une question de forme. Donc finalement, la déclaration, elle est politique. Quand on dit « je vais me retirer d'un traité », le lendemain, on est toujours dans le traité. Donc, on l'a vu de manière assez spectaculaire pour Trump, qui avait dit qu'il allait se retirer d'un traité, mais finalement, les délais étant tels, Biden a pu revenir dans le traité assez rapidement, puisque le retrait ne se fait quasiment qu'à la fin du mandat premier mandat de Trump.
Alors, Bart De Wever, le premier ministre belge, lui, il a fait polémique en indiquant que selon lui, il a réagi à cette décision de la Hongrie de souhaiter sortir de la Cour pénale internationale et de décider de ne pas exécuter ce mandat d'arrêt. Il a dit que selon lui, la Belgique n'aurait pas non plus arrêté le premier ministre israélien. Il est même allé plus loin. Il a dit qu'il ne pensait qu'aucun État européen n'arrêterait Netanyahou s'il devait être sur son territoire. Et il a expliqué que c'était des questions de réel politique. Est-ce que c'est votre avis également ?
Mais il faut remettre ça dans le contexte. C'était en néerlandais. Et donc, on lui disait, oui, mais si par exemple, par hasard, l'avion de Netanyahou devait être détourné et devait faire un atterrissage forcé en Belgique, est-ce que vous pensez qu'il serait arrêté ? Donc, c'était d'abord une hypothèse tout à fait singulière. Ce n'était pas une invitation de Netanyahou. Deuxième point, Bart De Wever, évidemment, a fait une ellipse. Ce n'est pas un Premier ministre qui décide qu'on arrête quelqu'un, c'est un juge. Donc, il y a une procédure judiciaire. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de la magistrature qui décide. Et donc, ce qu'il a dit là, il a dit... alors, après, on peut essayer de supposer de comprendre ce qu'il a dit là. En fait, il voulait montrer qu'il connaissait, les relations internationales. Et alors, il y a une première chose. Première chose, il dit, est-ce qu'un juge, en cas d'atterrissage forcé, d'un avion de Netanyahou va se précipiter sur l'aéroport ? Sans doute que non. Deuxième élément, est-ce que vous pensez que la marée chaussée va être telle qu'on va pouvoir extraire, le cas échéant, de la carlingue Netanyahou enterré de ses gardes du corps ? En fait, c'était ces éléments-là auxquels il pensait. Et puis après, il disait, ah oui, et en plus, ça va créer quand même une sacrée crise diplomatique. Donc voilà, c'est ça, à ça qu'il pensait. Il ne pensait pas au principe juridique, j'imagine, Donc de dire, première chose, séparation des pouvoirs, c'est pas lui qui décide. Deuxième chose, la question de la polémique, est-ce qu'il y a une immunité pour les chefs de gouvernement en fonction? La Cour pénale internationale a dit que non. Et donc ça, je vous renvoie aux propos de certains de mes collègues spécialistes du droit international qu'ils ont pu émettre. Mais en attendant, je pense que Bardewever, il a pensé de manière très pragmatique. C'est pour ça qu'il disait que c'est une question de réel politique.
Mais c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que ce mandat d'arrêt, en fait, en l'état, il est impossible à exécuter, en fait.
Non. Il faut une volonté judiciaire et une occasion propice. Mais je me souviens de la manière dont Netanyahou s'était déplacé en 2015 quand il y avait la manifestation post-Charlie Hebdo. Bah, il avait son propre service de sécurité aussi. Et donc je ne connais pas les mesures de sécurité qu'il a quand il va à l'étranger, mais je suppose qu'elles ne sont pas fort différentes de ce qu'elles étaient en 2015.
Alors, dans la caste politique belge, évidemment, l'opposition s'est émue un peu des propos de Bardewever, mais Georges-Louis Boucher, le président du MR, lui, il a défendu le Premier ministre. Il a souligné que la Belgique se devait d'agir avec proportionnalité. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Alors, c'était un peu obscur. Il valait mieux écouter le ministre des Affaires étrangères qui a sans doute été briefé par son cabinet, qui a dit oui, c'est une question. Il y a d'abord une question de principe. La Belgique reste dans la Cour pénale internationale. La Belgique respecte le droit international. Et puis après, il y a une question, je dirais, de cas. C'est pas un ministre des Affaires étrangères ni un Premier ministre qui décide ou non d'arrêter une personne qui est sous un mandat d'arrêt international. Donc voilà. C'était plus clair ce que le ministre des Affaires étrangères a dit. La question de la proportionnalité, je n'ai pas bien compris ce qu'il voulait dire par là, en quelque sorte.
Il a également ajouté que la Belgique ne pourrait intervenir qu'en cas de défaillance des juridictions israéliennes, ce qui ne fait pas beaucoup sens non plus. En tout cas, moi, j'ai comment le comprendre?
Oui, c'est-à-dire que, il dit, ben voilà, là, on peut récolter juridiquement parlant, en disant, normalement, donc, s'il y a un mandat d'arrêt, bah, voilà, il devrait être exécuté par l'État, l'État national de celui qui a le mandat d'arrêt sur sa tête. Mais à ma connaissance, donc, Israël n'est pas membre de la Cour pénale internationale, ni du statut de Rome. Donc, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, on pouvait imaginer, enfin, l'argument aurait, me semble-t-il, été bon, si on avait dit, tiens, voilà, il y a un ressortissant belge qui est poursuivi. Et on dit, bah voilà, c'est la Belgique qui va devoir le poursuivre. Et c'est pas s'il se balade en France, c'est pas là qu'on va le poursuivre. J'imagine qu'il a voulu dire ça. C'est un peu confus. C'est un peu confus.
Et ma dernière question, Tanguy Le Wilde, c'est qu'est-ce que ça dit, en fait, de la coopération juridique entre les pays, ce nouvel événement?
On est dans une situation particulière. Il y a des États qui sont membres du statut de Rome et d'autres qui ne le sont pas. Et c'est la Cour qui a dit comment elle interprétait la manière dont on devait gérer des personnes poursuivies alors que leur État n'est pas membre. Donc voilà. Donc c'est la Cour qui a donné, d'une certaine manière, la voie à suivre. Et quand vous dites cet épisode, bah, en Belgique, il ne s'est rien passé. C'est une hypothèse, première chose. Et en ce qui concerne la Hongrie, elle est dans une posture et elle est logique, finalement. Vous dites, bon, maintenant, non seulement voilà, j'indique que je vais faire cela, et en plus, je vais me retirer du statut. Donc, c'est politiquement logique, en quelque sorte. C'est un peu comme le Japon qui décidait, qui dit, voilà, je me retire de la Société des Nations parce que j'ai envoyé un État.
Eh bien, Tanguy Deville, je vous remercie pour votre éclairage. Je rappelle donc que vous êtes professeur de relations internationales à l'UC Louvain. Merci beaucoup, à très bientôt.
Merci, au revoir.